France Culture.
Notre thème de la semaine, c'est réapprendre à se parler. En voilà un qui sait nous parler. Olivier Denray pour les informations. Bonjour Olivier.
Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. De la prison ferme pour 3 copropriétaires, du sursis pour un architecte et un ancien élu municipal. Le tribunal correctionnel de Marseille a rendu aujourd'hui son jugement dans le procès de la rue d'Aubagne. Il y a 7 ans, 2 immeubles s'effondraient dans la cité phocéenne, faisant 8 morts parmi les habitants. Un non-lieu pour Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran. Ces 3 anciens membres du gouvernement avaient vu leur gestion de la crise Covid mise en cause devant la Cour de justice de la République. Cette instance, chargée de juger les politiques, vient de clore leur dossier. 7 prix Nobel d'économie appellent la France à taxer les ultra-riches. Dans une tribune publiée par Le Monde, ils affirment que les taux d'imposition des milliardaires sont plus bas que ceux des classes moyennes. Donald Trump écrit à une douzaine de partenaires européens. Le président américain veut les convaincre de passer au plus vite des accords économiques et commerciaux pour éviter le mur des droits de douane. Enfin, la Pologne renforce ses contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie. Après la victoire des nationalistes à la présidentielle, le gouvernement libéral et pro-européen cherche à donner des gages pour montrer qu'il lutte efficacement contre l'immigration illégale. Après 6 semaines d'audience l'automne dernier, le tribunal correctionnel de Marseille a donc finalement rendu son jugement il y a quelques heures. Maintenant, symbole de l'habitat indigne dans notre pays, l'effondrement de 2 immeubles situés rue d'Aubagne avait le 5 novembre 2018 coûté la vie à 8 personnes. Dans cette affaire, 16 prévenus ont été poursuivis par la justice, 6 ont été relaxés aujourd'hui. Les autres ont tous été condamnés, de la prison ferme pour certains, du sursis pour d'autres, Mathilde Vinceneux, et une chaîne de responsabilité qui ne fait aucun doute pour le tribunal.
C'est sous les huées et les cris de la foule que les condamnés quittent le tribunal. Une peine de 2 ans de prison avec sursis est prononcée contre le seul élu jugé dans cette affaire, l'ancien adjoint au maire de Marseille qui avait la charge des immeubles en péril, et contre l'expert trop pressé qui n'a pas pris le temps de visiter tous les logements délabrés. Mais c'est contre une poignée de copropriétaires que le tribunal prononce les peines les plus lourdes. L'un d'entre eux a fait un malaise à la barre à l'énoncé du jugement. Jusqu'à 2 ans de prison ferme sous bracelet électronique, notamment contre le propriétaire de l'appartement où vivait Iman Saïd Hassani et sa famille, sa mère est morte sous les décombres.
Nos propriétaires, ils ont été condamnés sévèrement, même si on aurait souhaité que ce genre de personnes ils aillent faire un tour au Beaumont. On est quand même satisfait de la décision. Au moins, il y a eu des interdictions. Ils ne peuvent pas exercer des fonctions liées au logement. Et c'est une très bonne chose pour nous.
Mais il y a aussi de la surprise, de la colère chez les victimes, car personne n'imaginait que certains propriétaires seraient relaxés. C'est le cas pour les propriétaires du fils de Liliana Lalonde, tué dans les effondrements. Elle a laissé couler quelques larmes.
Déçu. Là, j'ai comme un coup sur la tête. Hein. Vraiment, je m'y attendais pas, honnêtement. Je pensais qu'il serait condamné à une peine quelconque. Donc je ne crois pas qu'ils vont faire attention dorénavant.
Un signal clair aurait pu être envoyé à tous ces petits propriétaires négligents, ajoute Francis Vernède, président de la Fondation pour le logement en région PACA, partie civile au procès.
Ça nous questionne sur le message qui est envoyé sur ces propriétaires parfois indélicats, qui sont forts pour aller capter les loyers et qui sont pas très regardants des biens qu'ils mettent à disposition de leurs locataires.
Il faut qu'il y ait un avant et un après ce procès. Il faut se battre maintenant pour les vivants, insiste Liliana Lalonde.
Combien des jeunes étudiants qui sont obligés de louer des taudis? Il faut surtout pas les oublier.
Le combat continue contre l'habitat indigne, conclut cette mère de victime. Les condamnés, eux, ont 10 jours pour faire appel.
Un reportage à Marseille signé Mathilde Vinceneux. C'est une décision qui vient clore le chapitre politique de la gestion de la crise sanitaire. 5 ans après le début des investigations menées par la Cour de justice de la République, seule juridiction habilitée à juger des membres du gouvernement, eh bien, un non-lieu vient d'être prononcé. Il concerne 3 anciennes figures du gouvernement. Édouard Philippe, qui fut Premier ministre, mais aussi Agnès Buzyn et Olivier Véran, qui se sont succédés à la santé. Sans surprise, Anne Fauquemberg, la Cour a suivi les réquisitions du ministère public.
C'était une décision attendue. Elle a été annoncée dans un
bref communiqué par Rémi Heitz, le procureur général près la Cour de cassation, qui exerce les fonctions du ministère public auprès de la CJR. Rémi Heitz n'a pas détaillé les motivations des magistrats. Mais lors des réquisitions, en mai dernier, il avait donné beaucoup d'explications. Les investigations ont en effet établi que de nombreuses initiatives avaient été prises par le gouvernement pour combattre la pandémie de Covid-19 dans les premiers mois. Des initiatives qui font obstacle à ce que l'infraction d'abstention volontaire de combattre un sinistre soit constituée à l'encontre d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran. Concernant Agnès Buzyn, le parquet général avait aussi relevé qu'elle avait quitté ses fonctions le 16 février 2020, avant le premier décès d'un malade contaminé, 9 jours plus tard. Le code pénal ne vise pas à réprimer une politique publique qui n'aurait pas atteint entièrement son objectif, avait expliqué le magistrat, mais des individus qui volontairement ont refusé de prendre toute mesure de nature à combattre un sinistre. Il faut aussi noter que les trois politiques n'étaient pas mis en examen, mais placés sous le statut plus favorable de témoins assistés. Enfin, si le chapitre des responsabilités politiques semble se refermer avec ce non-lieu, une procédure est toujours en cours au tribunal judiciaire de Paris. Mais il est encore trop tôt pour dire si l'information judiciaire ouverte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, homicide et blessures involontaires donnera un jour un procès.
Mais enfin, l'actualité judiciaire, c'est ce verdict attendu d'ici ce soir à la Cour d'assises spéciale de Paris. Il s'agit du procès de l'attaque au couteau à la prison de Condé-sur-Sarthe contre 2 surveillants. Les faits remontent à 2019. La peine maximale a été requise contre Michael Ciolo pour tentative d'assassinat. Rejetée par le Sénat le mois dernier, la taxe Zucman, réservée aux ultra-riches, peut compter désormais sur le soutien d'économistes de renom. 7 prix Nobel d'économie signent aujourd'hui une tribune dans le journal Le Monde. Ils appellent la France à mettre en place un impôt minimum sur le patrimoine des Français les plus fortunés. Ils estiment que les milliardaires en question contribuent peu aux charges communes, eu égard à leur capacité financière, Cécile de Kervas-Douy.
Ils ne payent que 0 à 0,6% d'impôt par rapport à leur patrimoine. Et ce sont les ultra-riches français qui en payent le moins, 0,1% seulement en impôt individuel sur le revenu. Si on y ajoute tous les autres prélèvements obligatoires sur les sociétés ou sur la consommation, les Bernard Arnault, Bettencourt, Hermès, Saadé, Besnier, Pinault, Bouygues ou Bolloré ont des taux d'imposition beaucoup plus bas que la classe moyenne ou les cadres supérieurs. Pourquoi ? Eh bien parce que ces milliardaires mettent en place tout un système d'optimisation fiscale via des holdings familiales où leurs dividendes s'accumulent bien à l'abri du fisc. Et c'est en France que les quelques 50 milliardaires français sont les plus prospères, puisqu'ils possèdent en patrimoine l'équivalent de 30% du PIB national, contre 14% pour les milliardaires du reste du monde. Mais alors que la dette française s'envole, dépassant les 110% du PIB, il s'agit aujourd'hui de trouver de nouveaux revenus. Et c'est l'idée de la taxe Zucman, éviter que les riches n'échappent à l'impôt via la mise en place d'un impôt plancher à partir de 100 millions d'euros de patrimoine. Un impôt fixé à 2% qui pourrait rapporter en France 25 milliards d'euros par an. Adoptée en février par l'Assemblée nationale, mais rejetée par le Sénat en juin, cette proposition française à l'aval des 7 prix Nobel, qui assure que la France a de nouveau l'occasion de montrer la voie au reste du monde dans le domaine fiscal, en soumettant enfin les plus riches aux règles communes, écrivent-ils, avant de conclure que d'autres pays comme l'Espagne, le Chili, le Brésil ou l'Afrique du Sud sont en passe d'adopter une telle taxe.
Un deuxième conseil de défense consacré à l'entrisme des frères musulmans. Le chef de l'État attend de nouvelles propositions de la part du gouvernement. Il veut notamment un texte de loi avant la fin de l'année, mais aussi, dit-il, des sanctions financières plus fortes en mai dernier. Emmanuel Macron avait estimé à l'issue d'une réunion similaire que les mesures envisagées n'étaient pas à la hauteur de la situation. Il en avait profité d'ailleurs pour recadrer Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Désarmer toutes les polices municipales, l'idée est une fois de plus défendue par la France insoumise. C'est Mathilde Panot, la chef des députés LFI, qui en reparle dans la perspective des prochaines élections. Elle souhaite que ces forces de l'ordre soient intégrées à la police nationale pour faire davantage de proximité. La proposition provoque un tollé dans la classe politique à droite et à l'extrême droite, mais aussi à gauche. Le PS estime que cette idée n'a aucun sens. Comment peut-on même l'imaginer, insiste Olivier Faure, le patron des socialistes. On apprend ce soir la mort d'Olivier Marleix à l'âge de 54 ans. Le député d'Eure-et-Loire a mis fin à ses jours. Pendant plus de 13 ans, il a présidé le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale de 2022 à 2024 jusqu'à la dissolution. Il fut membre de plusieurs cabinets ministériels et l'un des conseillers de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, au Palais Bourbon, les élus ont observé cet après-midi une minute de silence. Emmanuel Macron salue un homme politique d'expérience qui défendait, dit-il, ses idées avec conviction. Les autorités françaises sont toujours sans nouvelles d'un jeune franco-allemand de 18 ans. Lennart Monterlos a manifestement disparu en Iran le mois dernier. Parti de Besançon, il faisait un grand voyage à vélo à travers l'Europe et l'Asie, profitant d'une année de césure avant d'entreprendre des études supérieures. Le Quai d'Orsay en profite pour rappeler que tous les déplacements en Iran sont vivement déconseillés. Apple conteste une amende sans précédent de 500 millions d'euros. Le géant américain annonce faire appel d'une condamnation prononcée en avril dernier par la Commission européenne. Bruxelles dénonçait alors des clauses abusives liées à la boutique d'application du fabricant d'informatique. L'Europe avait également validé le même jour une amende de 200 millions d'euros à l'encontre du groupe Meta qui possède Facebook et Instagram pour cette fois-ci infraction à la concurrence. Une fois de plus, au sein de l'Europe, l'immigration illégale est brandie comme un étendard pour justifier un renforcement des contrôles aux frontières. Cette fois-ci, c'est la Pologne qui est à l'initiative. Le gouvernement de Donald Tusk qui doit réagir à la montée des nationalistes après leur récente victoire à la présidentielle. Le gouvernement décide de mieux contrôler tous les points de passage avec l'Allemagne. Même chose d'ailleurs avec la Lituanie. Varsovie accuse notamment Berlin de renvoyer de nombreux migrants en Pologne, ce que démentent les autorités allemandes. Outre-Rhin, c'est une correspondance de Sébastien Baer.
Au total, 52 points de contrôle le long des 467 km de frontière entre Allemagne et Pologne, soit un tous les 9 km. Les piétons, les cyclistes et les véhicules aux vitres teintées ou avec plusieurs passagers à bord sont priés de s'arrêter, ce qui crée quelques embouteillages. Pour Varsovie, la mesure doit permettre de réduire les flux de migrants. Elle est surtout une réponse à la politique migratoire allemande et aux contrôles mis en place par Berlin depuis presque 2 ans à la frontière. Le Premier ministre polonais Donald Tusk défend la libre circulation au sein de l'Union européenne, mais dit-il, cette volonté doit être partagée par tous. Varsovie reproche à son voisin de refouler vers la Pologne des migrants désireux d'obtenir l'asile en Allemagne. Ces contrôles doivent durer 1 mois jusqu'au 5 août, mais ils pourraient être prolongés. Le syndicat allemand de la police met en garde contre un jeu de ping-pong à la frontière dont les demandeurs d'asile seront les victimes.
Au Texas, la menace est toujours là. Des inondations très rapides comme celles qui ont d'ores et déjà coûté la vie à plus de 80 personnes depuis vendredi dernier. Le gouverneur de l'État s'appuie sur les alertes des services météo et appelle à la plus grande vigilance. Cette nouvelle catastrophe percute en tout cas de plein fouet les discours climato-sceptiques de la Maison-Blanche, des discours qui ont justifié des coupes budgétaires aujourd'hui pointées du doigt par l'opposition américaine. Donald Trump, qui pourrait se rendre à la fin de la semaine au Texas, semble en tout cas plus enclin en ce moment à faire pression sur les Européens. Il veut des accords commerciaux favorables aux États-Unis, faute de quoi de substantiels droits de douane viendront frapper les produits estampillés UE. Le milliardaire républicain vient donc d'envoyer une douzaine de lettres à ses partenaires du lobbying encore et toujours. Sébastien Power nous appelle de Washington.
12 lettres commencent à partir aujourd'hui, des courriers adressés aux partenaires commerciaux des États-Unis pour leur indiquer les taux de droits de douane auxquels leurs produits seront soumis pour entrer sur le sol américain. Parce que depuis 3 mois maintenant, Washington essaie de conclure des accords avec des dizaines de pays pour faire baisser les barrières sévères qu'il a annoncées en avril. Mais à ce jour, seuls 2 accords préliminaires ont été signés avec le Royaume-Uni et le Vietnam. Les deux pays ont accepté d'ouvrir leur marché à l'agriculture américaine, d'acheter davantage d'avions Boeing et de réduire certains liens avec la Chine en échange de droits de douane de 10% pour la Grande-Bretagne et de 20% au lieu de 46% pour le Vietnam. L'Inde pourrait être le prochain pays à signer un accord cadre avec l'Amérique, mais la plupart des autres, de la Corée du Sud à la Malaisie, en passant par le Lesotho, la Suisse, ne parviennent pas à avancer parce que les négociateurs américains sont débordés par toutes ces discussions en même temps. Trump a d'ailleurs laissé entendre que les droits de douane pourraient encore être décalés de quelques jours au 1er août.
Aucune avancée pour l'instant dans les négociations au Qatar. Les délégations palestiniennes et israéliennes doivent reprendre a priori les discussions dans la soirée. À Washington, Donald Trump et Benjamin Netanyahu ont eux prévu de dîner ensemble pour tenter de faire avancer les choses. Les deux hommes se verront loin des journalistes. C'est leur 3e rencontre depuis le début de l'année. Mais vu d'Israël, les points de blocage sont encore nombreux. Thibault Lefèvre.
Alors, le seul point d'accord pour le moment, c'est la durée de la trêve, 60 jours, et le nombre d'otages libérés pendant cette période, 10 vivants, 18 dépouilles, soit un peu plus de la moitié des Israéliens encore détenus à Gaza. Les délégations israéliennes et du Hamas sont entamées cet après-midi un deuxième cycle de pourparlers. Les discussions portent sur des questions techniques, concrètes, comme le nombre de détenus palestiniens libérés, la gravité des peines qu'ils purgent, et puis le mécanisme de distribution de l'aide humanitaire. Mais le vrai point d'achoppement n'est pas là. Après les ruptures unilatérales des deux précédents cessez-le-feu par Israël, le Hamas veut désormais des garanties solides sur la fin de la guerre et exige un engagement écrit des États-Unis. Benjamin Netanyahou va tenter ce soir de dissuader Donald Trump d'aller aussi loin. Il ne veut surtout pas perdre, avant les vacances parlementaires à la fin du mois, ses alliés bellicistes d'extrême droite dont le premier ministre israélien dépend pour rester au pouvoir.
Deux mots de météo pour terminer. Toujours de la fraîcheur au nord et du vent sur la Méditerranée. Le soleil revient toutefois sur la façade atlantique. Les températures iront de 10 à 23 degrés au lever du jour. C'est la fin de ce journal avec à la technique Nicolas Delmas.